La hauteur des remparts m'écrase.
C'est par cette porte qu'il y a 10 ans, j'ai quitté Thèbes en courant pour rattraper Œdipe.
Plus rien n'est pareil. Les portes ont doublé d'épaisseur et de hauteur.
Il faut 4 hommes maintenant pour les manœuvrer, tandis que Polynice les ouvrait et les refermait tout seul.
Un homme de haute taille, très rouge, en cuirasse, me regarde venir, appuyé sur sa lance.
Il lorgne avec mépris mes pieds couverts de poussière, ma robe méprisée, mon visage en sueur.
Les mendiants sont interdits ici. Entrez par une des grandes portes, impossible pour toi, mais je peux te laisser entrer dans une cour à l'intérieur du rempart. Il y a là un puits où tu pourras boire et te laver. Ma garde sera bientôt finie. Je te rejoins si tu es gentil ce soir. Je te ferai entrer dans la ville par un souterrain.
Je le regarde dans les yeux et je réponds simplement non.
C'est début juillet 2013 que j'ai décidé de quitter Alep dans le nord de la Syrie.
En temps de guerre, tu ne sais pas si tu seras vivant le lendemain, si tu retrouveras tes amis ou tes proches.
J'ai fui seule à bord d'un bus pour Izmir, en Turquie.
Le premier trajet ne dure que 16 heures.
Sur place, un passeur m'a proposé en échange de 5000 euros de me faire arriver en Allemagne caché dans un camion.
Au bout de 20 jours d'attente, je monte à bord d'un semi-remorque avec 7 autres réfugiés.
À la suite d'un contrôle, le voyage s'interrompt dans le nord de la Grèce après 2 jours d'enfermement.
Mais la police grecque nous laisse repartir et nous rejoignons Athènes à bord d'un bus.
Sur place, j'erre quelques jours avant qu'un trafiquant me propose le passage pour l'Italie.
Cette fois, le tarif du voyage s'élève à 2500 euros.
J'ai eu de la chance.
D'autres ont dû payer jusqu'à 5000 euros.
Mais il faut encore attendre dans une sorte d'étable au mur en terre, à proximité d'Héraclion.
Dans la petite bâtisse, on était une centaine de migrants.
Beaucoup de Syriens, mais aussi quelques Africains et des Bengalis.
Chaque jour, il y avait 2 ou 3 nouveaux arrivants.
On ne pouvait plus bouger.
Je vais demeurer près d'un mois dans ces conditions.
On ne pouvait sortir qu'à la nuit tombée pour faire nos besoins dans la mer.
Une nuit, les passeurs nous réveillent et nous font monter précipitamment dans une petite embarcation.
Une 50aine d'autres réfugiés placés dans une maison voisine nous rejoignent.
Au total, nous étions plus de 250.
Nous avons navigué pendant une journée et demie.
C'était un film d'horreur, presque pire que la guerre que nous avions laissée derrière nous.
Nous étions tous malades et apeurés, surtout les enfants.
Au large, notre navire de fortune accoste finalement un cargo plus grand venant d'Égypte.
Dans la cale de l'embarcation, prévue pour transporter du bétail, se trouve déjà une 50aine de réfugiés syriens.
La nouvelle traversée va durer 4 jours.
Nous n'avions plus rien à manger et presque plus d'eau.
On n'arrivait pas à dormir.
Les enfants vomissaient sans arrêt.
À proximité des eaux italiennes, l'équipage égyptien nous réveille.
Il était 3 heures du matin.
Ils nous ont fait redescendre sur le petit navire qui nous avait suivis.
Puis, ils nous ont abandonnés.
Nous sommes restés toute la journée sous le soleil, sans vivre.
Ce n'est que vers 21h que les gardes-côtes italiens prennent possession de l'embarcation. Direction le port de Syracuse, sur la côte orientale de la Sicile.
Je ne savais pas exactement où nous étions.
L'essentiel était d'avoir mis le pied en Italie.
Si tu veux manger, tu dois donner tes empreintes digitales, hurlaient les policiers.
Les vieux Africains qui travaillent avec la police nous disaient de quitter l'Italie. Il n'y avait pas de travail ici.
Mais pour nous faire sortir du camp, ils nous ont rançonnés.
Entre 20 et 100 euros.
Une fois à l'extérieur, ils nous ont mis un couteau sous la gorge en exigeant tout notre argent.
J'ai réussi à fuir, mais certaines familles ont tout perdu. Pour tous les Syriens, commence alors la course vers le nord.
Les plus fortunés partent en taxi.
Les autres en train ou en bus, moins cher et plus sûr.
Au bout d'un jour, j'arrive à Milan.
Des dizaines de Syriens dormaient aux alentours de la gare ou dans les jardins publics.
Je veux rejoindre l'Autriche et pars immédiatement en train.
Les douaniers ne m'ont pas demandé mes papiers.
À Vienne, je me rends spontanément au commissariat pour demander l'asile politique.
En attendant, je suis envoyé dans un centre de réfugiés à Innsbruck.
Dans le camp, il y avait quelques Bulgares et des Hongrois, mais surtout des familles syriennes.
L'une d'entre elles avait perdu un enfant dans la mer, en Grèce.
Une autre pleurait un parent mort lors du passage en Turquie.
Presque toutes avaient été frappées au cours du voyage.
Un matin d'octobre, la police autrichienne me jette dans un fourgon policier comme un assassin.
Ils m'ont pris mon portable et m'ont ramené à Vienne. Ils m'ont traité comme un animal.
J'avais fui la guerre pour une autre vie.
Je n'ai vu que des drames et des coups.
Je ne savais pas où j'allais.
J'avais peur qu'ils me renvoient en Syrie.
Au bout d'une heure, je suis arrivée à l'aéroport de Venise.
Mon histoire personnelle n'a rien que de très normal.
Dans le centre de Chioggia, où j'ai séjourné, j'ai retrouvé un Syrien que j'avais connu en Grèce.
Il a été jusqu'en Finlande avant d'être envoyé à Venise.
Mais beaucoup d'autres ont vécu de véritables tragédies.
Une famille m'a raconté que la police maltaise avait tiré sur leurs embarcations.
Il y a eu plus de 50 morts.
Je pensais que l'Europe, c'était la liberté.
En Syrie, tu ne sais pas quand tu vas mourir.
En Europe, tu meurs peu à peu ou tu deviens fou.